Je lance l'enregistrement.
Ok. Vous êtes dans Bruit de quartier, la nouvelle émission de Jet FM sur le quartier Bellevue. Tous les premiers mardis du mois, à 17h, on tend le micro à celles et ceux qui vivent à Bellevue au quotidien. Les habitants, les commerçants et les passants nous racontent leurs souvenirs, leurs coups de cœur, leurs idées pour le quartier.
Et voilà. Moi, je vais y aller.
Dans Bruit de quartier, on découvre Bellevue à hauteur d'oreille.
J'habite à Romain-Rolland.
Oui, j'habite ici.
Pas Bellevue, mais je travaille depuis très longtemps.
Bonjour et bienvenue dans la troisième édition de Brut Quartier. Vous êtes bien sur Jet FM 91.2. Je suis Franz du Sonolab et aujourd'hui, Victor et moi allons nous balader dans le quartier Castor à Bellevue. Nous allons retracer son histoire, celle de ses habitants et comprendre pourquoi et comment est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui.
Alors est-ce qu'il y a plus d'humains ou de vaches sur Terre ? Ou de poules ? Ou de...
7 milliards de poules.
Mais ah, les fourmis, ouais. Ah, puis les fourmis, elles sont sauvages. Elles sont pas là pour nous nourrir, quoi. Elles sont pas là parce qu'on a décidé qu'elles devaient être là pour nous nourrir.
Jet FM. Jet FM. Jet FM. Jet FM. 91.2.
Alors, nous voilà en bas de la rue de Pessac. En bas de la rue de Pessac, il y a donc ce cul de sac, Farine. Et c'était autrefois bitumé. Et donc, on en a parlé l'autre fois. A été bitumé grâce aux grosses pelleteuses de la ville de Nantes, les jardiniers de la ville de Nantes. Suite à quoi, la ville a aussi fourni de la terre. On a aménagé ce petit espace là pour planter. On peut tourner à droite, là, dans l'allée, comme ça. On va aller ramasser les déchets s'il y en a. Et donc ça, c'est du chou. Donc l'idée, c'était de planter des choses qui puissent être mangeables. Bah, un petit peu, elle a une toute petite place, parce que ce qui a une grosse place, c'est quand même les constructions, les routes, les voitures. Ouais, c'est important pour les habitants, je pense, mais dans les faits, je trouve que c'est pas assez, il n'y a pas assez de place, quoi. On pourrait débitumer vachement plus, hein, d'endroits, et on pourrait planter vachement plus, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais, donc ça n'a rien à foutre là. Ça va pas trop se composter. Et ça non plus. Voilà, mais en tout cas, ce qui était chouette, c'est que voilà, cette parcelle-là, on l'a du coup récupérée. On a mis quelques arbres aussi qui sont là-bas, et surtout, on l'a fait en collectivement avec tous les voisins. Ces week-ends de plantation qu'on a fait là, et des fois, on se retrouve aussi pour entretenir. Ça a réuni vachement les gens. Il y a un esprit comme ça, ouais. En tout cas, sur les trucs qui rassemblent, genre jardinage, apéro aussi, ça rassemble dans la rue. Oh, il pleut, on peut aller voir, on y va, on reste quand même sous la pluie, hein. On n'en va pas. Oui. Pommier, poirier là-bas. Là, c'est une haie comestible aussi avec des arbousiers. Qu'est-ce qu'il y a ? Goyavier du Brésil, un truc comme ça. Et là-bas, il y a plein de cassis et de framboises. Ça appartient à la ville, ils fournissent les plants, la terre, le débitumage et nous, on entretient. Bah ouais, on peut récolter. Tu vois, c'est le boulevard des bâtonniers Cholet, c'est quand même hyper passant, il y a plein de voitures. Dans quelle mesure tout ça, c'est pollué, ça, les particules retombent, bah on est en ville, quoi, c'est dense. Enfin, c'est voilà, quoi. Il y a les bagnoles qui viennent se garer devant, je sais que des fois, t'as les pots d'échappement qui tournent. Bon, voilà. Je pourrais peut-être mettre des légumes racines, quoi. Plus que des petits fruits que tu manges comme ça. On peut monter un peu?
Ouais.
Donc ici, c'est les quelques rues du quartier Castor. Castor Saint-Yves. Ici, donc, rue de Pessac, ici, rue Carlédé, les noms des rues, donc, c'est quartier d'autoconstruction des maisons construites par les habitants dans les années 50. Donc, ils ont fabriqué leurs parpaings. Ils ont monté les parpaings. Et ici, c'était un champ. Enfin, ils ont terrassé, ils ont fait des rues, ils ont fait les fondations, ils ont fait leurs parpaings avec des moules à parpaings. Et puis, ben, ils ont tout fait, quoi, la charpente, la toiture, l'électricité, les plâtres, etc. Donc, dans les années 50, donc, ça a 70 ans, à peu près, ce quartier. Et donc, c'est à peu près globalement 4-5 rues. Et le nom des rues fait référence à d'autres quartiers du mouvement Castor. Okay. Donc, Carlédé, c'est un quartier du mouvement Castor de Saint-Nazaire. Ici, la rue de Pessac, ça fait référence à la ville de Pessac, à côté de Bordeaux, qui a été le premier quartier Castor en France. Tout ça, c'était donc après-guerre, il fallait reconstruire et notamment pour les gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, donc d'où l'autoconstruction. Ouais, alors moi je suis pas historien, mais j'étais pas vieux en 1955, mais Mais oui, oui, je crois qu'il y avait une grosse partie, même des gens, tiens, on va se mettre à l'écart de la voiture. Il y a une grosse partie de la ville qui était détruite. Il y avait des baraquements qui avaient été montés pour loger les gens après la guerre. Et puis y a plein de gens qui arrivaient à Nantes aussi, je crois, qui avaient besoin de logement. Puis ouais. Ici, on est dans le bout de Chantenay, donc il y avait quand même pas mal d'emplois. Et il y a des emplois ouvriers, notamment avec toutes les usines du Bas-Chantenay. Donc c'était beaucoup une population d'ouvriers, d'employés, SNCF, et beaucoup de gens qui travaillaient dans les Bas-Chantenay. Ou au port aussi de Nantes. Il y a plein d'héritages. Ouais, il y a des enfants de Castor qui ont grandi là, dans les années 50-60, qui habitent encore ici. Mais après, petit à petit, ces gens sont morts, quoi, les Castors, évidemment. Après, ça a été remplacé, tu vois, les populations ouvrées, les usines du Bas-Chantenay ont fermé. Donc en fait, c'est plus des ouvriers qui habitent ici. Mais ça reste des gens. Ça reste un quartier qui était qui est toujours moins cher, quoi, on va dire, pour un quartier de maisons à Nantes. C'est des petites maisons simples qui sont un peu toutes pareilles. Et donc toutes les maisons, vous pouvez voir, elles sont identiques ou elles sont jumelles, quoi. Elles marchent par deux, elles sont symétriques. Avec un petit sas d'entrée, deux petits carreaux de fenêtre là-haut, une pour la cage d'escalier, une pour la salle de bain. Une chambre. Donc il y avait quelques plans de maisons que le ministère du logement fournissait. Alors le plan A, le plan B, le plan C, je sais pas, qu'il y en avait peut-être 6, un truc comme ça. Dans le quartier, je crois qu'il y en a 4 plans différents. Quoi. Donc c'était quand même... le ministère était un peu derrière ça, quoi. Là, t'as encore 4-5 maisons, 1, 2, 3, il y en a 4 qui sont un peu différentes, plus grandes. Voilà, et ça, c'est l'ancienne église Saint-Yves. Donc il y a plein de gens qui se mariaient là à l'époque. Depuis, elle a fermé, c'est plus une église, elle a été remplacée par la paroisse, a créé l'église Saint-Étienne à Bellevue. Voilà, ça, c'est le club Saint-Yves, club de foot, encore très très actif, et qui réunissait... vachement les gens à l'époque. C'est un club associatif, ouais. Privé, donc qui est très actif, hein, mais qui réunit moins les gens, parce que je crois que le foot réunit moins. De ce que les anciens m'ont raconté, à une époque, il n'y avait que le foot. Donc dans le quartier, c'était très simple, tous les enfants allaient au foot, et puis les parents, ou du moins les papas, allaient à la buvette, ou alors jouaient eux-mêmes au foot. Puis aujourd'hui... Il n'y a pas que le foot, quoi. Il y a plein de possibilités d'activités quand t'es jeune, donc du coup, ça réunit moins les gens. Et puis là, on arrive, ça c'est la rue Saint-Paul-de-Léon, donc en référence, pareil. Donc c'est une impasse, on ne va pas y aller. Saint-Paul-de-Léon, pareil, ça devait être un quartier Castor à Saint-Paul-de-Léon. On va juste monter là-haut vers les jardins. En fait, là, on est à la limite de l'enceinte de l'ancien domaine de la Musse. Donc ici, c'était vraiment le domaine de la Musse, c'est pour ça que c'est encore boisé, il y a des arbres qui sont protégés par là. Et le domaine de la Musse, c'était la campagne, ça appartenait selon les époques, à des gens importants, et c'était une grande parcelle. Quoi. Donc c'est une partie de cette parcelle qui a été revendue pour construire la cité Castor. Saint-Yves. Et donc par endroits, il y a des bouts de murs de l'ancienne enceinte. Mais ça, c'est des trucs qu'il faut que je me renseigne. Mais tu vois, c'est un mur comme celui-là, ou comme celui-là, là, en pierre. Je sais pas de quand il date, mais je pense qu'il est très vieux. Voilà. Et puis après, quand tu écoutes les anciens ou ceux qui ont grandi là, ils te racontent tous les commerces qu'il y avait dans le quartier. La poissonnerie qui était là, je crois. Boulangerie, le bar qui était juste là à l'angle, etc. Il y avait une époque où c'était hyper vivant et local. Et du coup, ils se rencontraient vachement dans le quartier, dans tous les commerces qu'il y avait. Je sais pas comment ça marche la solidarité, on va prendre à gauche, mais j'imagine quand les gens se connaissent déjà. Et pour qu'ils se connaissent, il faut qu'il y ait des possibilités de se rencontrer. Ceux qui sont arrivés en premier, ils se connaissaient hyper bien, vu qu'ils avaient construit des maisons ensemble. Ça avait renforcé les liens. Ouais. Non, tout est fermé, ouais. Dans les années 80-90, je crois que... Après, tu vois, c'est l'histoire des petits commerces et des grandes surfaces en France, quoi.
Quand les grandes surfaces sont apparues, fin des années 60 et puis années 70, etc. Je sais pas, j'ai pas vécu, mais je pense que pour les gens, c'était pratique d'avoir, on va passer par là, de tout avoir dans un seul grand supermarché. Parfois, les prix étaient moins chers et puis en même temps, ils mettaient de l'essence dans leur voiture, etc. Quoi. Puis les petits commerces, bon, pour plein de raisons, il faut interroger les spécialistes, mais petit à petit, ils ont fermé, quoi. À défaut d'avoir un truc bâti, en effet, bah oui, un jardin, ça peut être un prétexte pour faire des trucs ensemble. Ouais. Et là, du coup, bah, on est un peu en hauteur, on voit le pont de Cheviré là-bas, on est vraiment sur l'ancien domaine du bois de la Musse, l'ancien domaine de la Musse. Le château de la Musse était à peu près juste derrière. Il y a le gymnase, là, on est au pied du gymnase Camus, le lycée Camus qui est juste derrière, et à l'endroit du lycée, bah, tu avais le château de la Musse. Du coup, ça allait jusque-là. L'enceinte, bah, on a vu des bouts de mur, ça c'était genre les anciennes écuries, on était à peu près à la limite de la Musse, quoi. Enfin, et voilà, donc là, cette bâtisse-là, il y a des bouts de mur qui datent du 18e siècle ou peut-être 17e siècle, quelque chose comme ça. Ouais. Puis tu vois la grosse entrepôt de silos là-bas du Bas-Chantenay. Et voilà, et juste au-dessus, et ben, c'est Bellevue. En fait, t'es vraiment à la limite. Et on peut continuer par les jardins. Là, c'est quand même un endroit ici où, grâce au sport, il y a pas mal d'enfants et de jeunes qui se retrouvent, quoi. Entre quartier, Castor d'ailleurs, et Bellevue aussi. Là, t'as le bois de la Musse juste derrière, on peut voir. C'est un mini poumon vert. Il y a un superbe arbre. C'est un petit endroit encore préservé entre justement d'un côté le lycée et la rue du bois de la Musse qui est aussi des constructions Castor. Quoi. Donc ça, je crois que les jardins familiaux sont nés dans les années 80. Et donc c'est des parcelles qui sont cultivées par des gens qui n'ont pas de jardin. Donc c'est pas par des habitants des maisons Castor en principe, mais plutôt des gens qui habitent dans des immeubles autour. Bellevue, etc. C'est à la ville et c'est donné en concession quoi, aux familles. Ouais. Il y a des belles parcelles hein, dedans. Il y a des gens qui cultivent à fond. Notamment il y a un couple là d'anciens. Ah, ils ont toujours des légumes, nickel, ils produisent à fond, ils sont hyper organisés. Je connais pas encore bien, mais je vais bientôt mieux connaître. On va faire une expo, il y a déjà quelques photos là dans l'allée, et qui montrent un peu les gens qui jardinent. Il y a un troc plante ici, un échange de plants, de graines, de plantes, au moins une fois ou deux par an, quoi. Et il y a déjà une expo photo là dans l'allée, et il y a une expo photo plus large sur l'histoire du quartier qui va être installée ici. Ce sera pour le mois de septembre de 2026, hein, pour les journées du patrimoine. Et pour raconter l'histoire des jardins, l'histoire du quartier, l'histoire des castors, etc. Et puis faire en sorte que ça puisse transmettre. Et ce sera une expo photo et une expo sonore. Et je vais notamment m'occuper de la partie sonore. Et là, on voit, c'est pas mal, bon, pareil, donc l'expo, elle sera pérenne et sur des supports plus qui résistent mieux aux intempéries et tout, mais on voit les plans là du quartier, l'évolution du quartier, quoi. Donc en 1923 ou 44, ça a beaucoup bougé. Mais tout ça, c'est la cité Castor. Donc on voit bien que c'était un champ. Et ça, c'est le domaine de la Musse. Donc on voit le château qui doit être là. Le château qu'on voit bien là. Ça, c'est ça. Ça, c'est les écuries où je vous montrais la maison de tout à l'heure. Et si on descend, bah, tout ça, c'est des parcelles, quoi. Tout ça, c'est des champs. Et la rue de Pessac, où il y a le petit jardin au bout, bah, elle était pas bouchée, quoi. Il n'y avait pas, évidemment, pas de périph', pas le boulevard du Bâtonnier-Cholet, et ça descendait à la Loire. Et là, ça reste la parcelle des jardins en 1981, là, on voit bien. Puis tout ça, ça s'est densifié, quoi. Donc là, c'est la rue Calédé, la rue de Pessac. On a pris la rue Marange tout à l'heure, on est remonté là, tac. Et le lycée, eh ben, le gymnase, la rue, le bois, et ça, c'est le lycée. Ouais, et puis bah, Bellevue qui s'est construit. Là, tu as les premiers immeubles. Jet FM, qui doit être par là, là, le bâtiment du Grand B. Et là, c'est les lauriers, le passage du tram, etc. Quoi. Voilà, donc on est en train de reboucler. Et puis là, c'est la rue de Pessac. Donc on redescend, plein sud, pont de Cheviré. Voilà, et là, c'est les jardins familiaux. Si tu as besoin d'épines de pin pour faire du paillage ou pour acidifier un peu ta terre, bah, tu peux venir prendre au pied de l'allée. Il y a plein d'épines de pin là, au bâtonnier Cholet. Je sais pas, si tu veux faire de la luge quand il neige, tu prends la rue de Pessac qui descend assez, mais la mieux c'est la rue des Frères Amieux. Là, elle est bien en pente. Et quand il neige, tu peux finir dans la Loire, quoi. Voilà. On est arrivé au point de départ.
Jet FM. Jet FM. Jet FM. 91.2.
Vous êtes bien sur Jet FM 91.2 dans l'émission Brut Quartier et nous venons d'écouter une balade sonore dans le quartier Castor à Bellevue, accompagné de Romain, à qui je donne le micro pour l'interview de Linda au Jardin du Bois de la Muse. Bonne écoute sur Jet FM 91.2.
Chers auditeurs et chères auditrices, à vos agendas. Les 19 et 20 septembre prochains, Nantes célébrera, comme chaque année, les journées du patrimoine et du matrimoine. À cette occasion, sera inaugurée une exposition de photos et de témoignages à écouter dans les jardins familiaux du Bois de la Muse, un quartier situé à l'extrémité ouest de Chantenay et à l'entrée sud de Bellevue. Alors cette exposition permettra de faire connaître l'histoire du quartier, l'aventure dite des castors, de la Saint-Yves et de la rue du Bois de la Muse, ainsi que les jardins familiaux. Plusieurs habitants et usagers des jardins sont en ce moment à l'œuvre pour recueillir vos photos, vos documents, vos témoignages, permettant de faire connaître ce quartier, son histoire et son évolution. Les Nantais parlent donc aux Nantais. Si vous entendez cet appel et souhaitez participer à cette exposition, contactez Romain ou Linda par téléphone au 06 30 33 98 24, 06 30 33 98 24, ou par email à l'adresse jardin au pluriel jardinboisdelamuse@hotmail.com jardinboisdelamuse@hotmail.com. Alors justement aujourd'hui, nous allons à la rencontre de ces jardins, l'hiver au jardin étant le moment de la dormance. C'était le bon moment pour découvrir ces jardins familiaux du Bois de la Muse. Il s'agit d'un espace de 1 hectare 260 où 76 familles jardinent 76 parcelles de potager. Ces jardins sont nés en 1988 et nous avons rencontré Linda Joablia qui est adhérente et présidente de l'association des jardins familiaux du Bois de la Muse. Bonne écoute à vous!
Tous les deux jours, si je devais trouver une moyenne, mais oui. Je suis là en toute saison. Il y a toujours des choses à faire en fait. Puisque en plus, je m'occupe un peu de la partie collective, puisque j'assure la gestion du site. Et donc, il y a toutes les tailles et toutes ces choses-là qui sont à faire pendant l'hiver. Il y a vraiment, il y a du travail quoi. Finalement, il y a peu de temps qu'on a repris le jardin en autonomie. En fait, on est en association autonome que depuis 2 ans. Avant, c'était l'AJFN, une association qui gère plusieurs jardins qui en gérait une dizaine. Et je pense que c'était beaucoup, je pense, pour eux. En tout cas, ils ont décidé que les jardins du Bois de la Muse ne feraient plus partie des jardins dont ils s'occuperaient. Et puis, du coup, nous, on a repris un peu la main, quoi. On a créé une association autonome et on se débrouille plutôt bien depuis, en fait. On n'a pas été trop perdant, je pense, à ce niveau-là. Si, pardon. On a perdu un peu de matériel, donc on a dû pouvoir assurer une trésorerie qui nous permette de racheter, par exemple, une remorque. On avait un broyeur qu'on utilisait, qui servait à plusieurs jardins. Bon, on l'a perdu aussi. Et là, on essaye de faire ce qu'il faut pour pouvoir s'acheter, par exemple, un broyeur. Alors, l'activité première dans les jardins familiaux, c'est bien entendu de cultiver des légumes. Mais on sait aujourd'hui, on sait même depuis pas mal de temps, que les fleurs et l'ornement vont attirer les insectes pollinisateurs et qui vont nous permettre d'avoir plus de fruits. Du coup, bon nombre de jardiniers associent les fleurs compagnes, les fleurs ornementales à leur culture potagère. Et c'est une très très bonne chose. Parcelle senior, ça va être une parcelle partagée entre seniors. Et ils vont jardiner ensemble. Donc c'est un nouveau projet là, qu'on a mis en place et qui va voir le jour à l'aube du printemps, tu vois, avec Nature et Jardin de la ville de Nantes, On a mis en place la parcelle avec des bacs, des choses pour leur permettre de jardiner dans les meilleures conditions. Ça va devenir une parcelle collective, c'est une parcelle qui mesure 200 mètres carrés à peu près, et ça va être, je pense, un petit groupe de moins de 10 personnes qui va être chapeauté par la direction de quartier de la ville, une direction de quartier de Bellevue. Là, et ici, on a ouvert une parcelle collective. La ville a mis en place un règlement parce que voilà, il y avait des petites choses qui se faisaient. Enfin, il n'y avait pas vraiment de règles et donc les gens faisaient un petit peu comme ils voulaient, notamment sur des constructions et aussi sur des plantations d'arbres. Il se trouve que dans le temps, certaines parcelles étaient vraiment avaient beaucoup trop d'arbres fruitiers qui n'étaient pas forcément en plus entretenus, donc taillés. Et donc du coup, voilà, suite à ce petit règlement, il y a des arbres qui ont dû être enlevés à certains endroits. Et on a cherché une idée, en fait, pour pouvoir les placer sur le terrain pour que le plus grand nombre en profite. Et comme notre espace collectif n'est pas très, très grand, et ben, du coup, on a dédié cette parcelle divisée à ces arbres et aussi à des plantes médicinales. On a des sauges, on a de la verveine, on a de la lavande, on a du romarin. Alors, on est encore en hiver, donc pour l'instant, elles ne sont pas des plus belles, elles sont en pause. Alors les allées, il y a une petite règle qui existe un petit peu depuis toujours, c'est que, tu vois, par exemple ici, ce plan de grillage en fait, qui est attenant à ce jardin, bah, c'est plutôt ce jardinier-là qui va venir un peu entretenir sa devanture, et ainsi de suite, tu vois, à chaque fois, c'est un peu comme ça. Et puis après, quand je te parle vraiment de travaux collectifs, ça va être un peu plus haut sur l'espace collectif. On va tailler nos plantes à massif, où on va étaler des feuilles mortes au printemps pour éviter les repousses d'herbes. Enfin, tu vois, ces petites choses-là qu'on va faire ensemble et qui sont autant de savoir-faire qu'on va partager, qu'on va échanger et tu vois, qu'on va apprendre ensemble. Et on fait ce qu'il faut aussi pour que les gens se rencontrent. C'est la raison pour laquelle on met en avant ces petites sessions, ces petits rendez-vous de convivialité, mais aussi des petites sessions de travail en commun pour embellir et entretenir nos espaces. Et on a un espace là-bas qu'on a imaginé pour les maîtresses d'école, parce qu'on a pas mal de maîtresses d'école et de scolaires qui viennent visiter les jardins à différentes saisons de l'année. Et donc voilà, ça leur fait un espace où elles peuvent se poser avec les enfants, sous le cerisier. Donc on a mis quelques petits fruitiers et puis aussi quelques plantes fleuries et ornementales. On a au moins 2-3 écoles qui viennent se balader au jardin et qui passent des petits temps et des découvertes avec les enfants. Notamment, tu vois, toutes ces plantes médicinales, bah, c'est un vrai plaisir olfactif et elles peuvent faire découvrir aux enfants ces plantes qui sont aromatiques et sont hyper intéressantes au niveau olfactif à découvrir. Et quand on est en haut sur l'espace collectif, sous l'abri, là, assis sur les bancs, on a vraiment le tableau du pont de Cheviré en fond de décor et c'est assez sympa. Même en début de soirée, petite tombée de la nuit, et là on a ces phares là qui bougent, ces petites lumières là qui clignotent et qui bougent. C'est ça qui est chouette, c'est que dans les jardins familiaux, en fait, on a différents tableaux. Et quand on tourne la tête à droite et à gauche, en fait, on a différents décors. Et ce qui fait que la balade, elle est hyper intéressante, quoi. Parcelle collective, on peut tous y aller, on y va en groupe et puis on l'aménage ensemble. On peut faire des récoltes de plantes aromatiques. Et puis les jardiniers, les adhérents, mais aussi les personnes de l'extérieur peuvent accéder à cette parcelle pour y faire une pause, prendre un bain de soleil, boire un thé ou même se faire un petit barbecue. Pas mal de nos voisins qui vivent, qui habitent, qui résident dans les maisons Castor, enfin dans les maisons alentour du jardin, viennent se balader en famille, avec les enfants. C'est vraiment super, ça fait plaisir. On a des personnes qui travaillent dans le coin et qui viennent déjeuner ici tous les midis. Toi, et ils adorent le lieu. Les projets collectifs, c'est essentiellement des petits temps de convivialité. On fait ensemble, on pratique ensemble le semis. Donc on fait des plants. C'est la raison pour laquelle, tu vois, j'étais en train de préparer, je finis de préparer la serre. On fait des plants collectifs et qu'on propose aux jardiniers, donc qu'on s'échange entre nous, mais aussi qu'on propose à la vente lors de notre petite fête de printemps. Donc ce sont les plans des jardins du Bois de la Muse. plants potagers ou plantes fleuries, campagne. Là, ce sont des artichauts. Celle qui est graphique, comme ça. Alors, on a les artichauts et aussi on a les cardes. C'est la même famille, mais elles ne se consomment pas pareil. Les cardes, on va plutôt consommer les tiges, donc ce qu'on appelle la feuille. Voilà. Et le fruit, il n'est pas très très gros, il n'y a pas grand chose à manger. Et dans l'artichaut, on va vraiment se concentrer sur le fruit, même si on peut faire des tisanes avec les feuilles d'artichaut. Toi, le monsieur, il est d'origine du Maghreb. Et en fait, en l'occurrence, dans les recettes de couscous, on peut y mettre des cardes. Une partie de la tige, il y a tout un petit travail à faire. Hein, ça demande un savoir-faire. Mais c'est très très bon quand c'est bien cuisiné. Les échanges de recettes, oui. Les projets de cuisine, pas trop, puisqu'on n'a pas le matériel, on n'a pas l'infrastructure pour. Donc là, ici, on a ce qu'il faut pour faire de l'entretien d'extérieur. Et on a notre petit local et même notre partie extérieure. On peut se réunir et faire du semis. Voilà, c'est vraiment l'activité potagère. Je te parlais tout à l'heure du projet de la parcelle senior. C'est une parcelle, l'ancien attributaire, monsieur Ramani, est arrivé au jardin à la naissance des jardins, donc en 1988. Il est parti, il a quitté le jardin il y a 2 ans, parce qu'il commençait à devenir un peu, tu vois, à ne plus pouvoir cultiver. Et du coup, ce jardinier a notamment amené pas mal d'essence du Maghreb, et donc il a planté. Tu vois, à l'époque, il n'y avait pas de règlement, on peut s'approcher. Il a planté tout autour de son jardin des arbres fruitiers, et notamment des essences qui viennent du Maghreb. Et ces arbres ont un certain âge. Aujourd'hui, ils sont, comment dirais-je, protégés par la ville. Tu vois, on peut pas les tuer, les enlever. Et du coup, c'est la raison pour laquelle on a eu l'idée ici au jardin, parce que c'est quand même une idée de l'association des jardins du Bois de la Musse, de proposer cette parcelle. La ville ne savait pas trop ce qu'on allait en faire. Est-ce qu'on allait faire une parcelle ouverte, enfin, toi, un espace ouvert, ou de proposer cette parcelle à des anciens, parce qu'elle est quand même assez ombragée. Et de la culture en bac surélevé. Et c'est comme ça qu'est né ce projet, qui a été validé bien sûr par la ville, ce projet de parcelle senior. Beaucoup de figuiers, hein. Beaucoup de figuiers. Je t'avoue qu'il y a énormément de figuiers qui ont été plantés ici au jardin. Alors, il y a quelque chose qui est un peu compliqué avec le figuier, c'est que c'est un bois qui est très fragile, donc il casse assez facilement. Et donc, c'est un petit peu dangereux. Il faut les entretenir et pas les laisser pousser trop haut. On en a eu un énorme, là, un double, qui est tombé avec le vent il n'y a pas très très longtemps. Et voilà, ça peut être dangereux. Et puis après, ça nécessite beaucoup de travail pour, tu vois, débiter ça en morceaux. Et c'est un arbre qui pousse aussi très vite. Et d'ailleurs, on a beaucoup profité du savoir-faire et des connaissances de nos anciens, qui nous ont transmis volontiers, en fait, leurs petites techniques. Et donc, on a quelques spécialistes. On a un spécialiste de la taille de la vigne. Mais on a Paul qui est très très doué dans la culture du poireau, du semis jusque, enfin tu vois, et l'entretien. Et voilà, et on profite par les échanges, on profite de ces savoir-faire. Et nous, les générations un peu plus jeunes, on ramène notre frais sur le paillage, tu vois, sur cette culture un petit peu plus au naturel, et tout ça, ça se mélange et ça fait, ça donne les jardins du Bois de la Musse. C'est assez sympathique. Je te présente Mehdi.
D'accord. Bonjour. C'est pour la radio.
Jet FM. Jet FM. Jet FM. Jet FM. 91.2.
Chaque année, on a quelques parcelles qui se libèrent. Là, cette année, on a pas mal de départs de seniors. Et donc, on a effectivement des parcelles qui se libèrent chaque année, en général. Les adhésions démarrent au mois de janvier. Toute une année. Et on essaye d'être prêt au mois de janvier pour pouvoir réattribuer les parcelles libres, pour que les personnes, les nouveaux attributaires puissent démarrer leur saison et faire les préparatifs dans les meilleures conditions. Sur cette partie haute, on avait 21 parcelles. Avec la ville, on divise de plus en plus les parcelles. Ça permet aussi de faire accélérer un peu cette liste d'attente qui est très très longue sur Nantes, hein, en moyenne de 6 ans. Voilà, diviser la parcelle, ça permet de satisfaire un plus grand nombre de personnes et aussi, comme le profil des jardiniers change et que beaucoup d'attributaires, de nouveaux attributaires sont encore dans la vie active, une parcelle plus petite, c'est beaucoup plus facile à entretenir. Au départ, on devait être à 65 parcelles au Jardin du Bois de la Muse. Donc tu vois, avec les divisions, on a déjà pris, ouvert 10 parcelles supplémentaires et ça tend encore à augmenter légèrement. On ne pourra pas aller beaucoup plus loin parce qu'il y a aussi la question des bornes à eau. Tu vois, on a l'eau dont se servent les jardiniers pour arroser les jardins, c'est de l'eau du puits, un puits souterrain. Et on a un certain nombre de bornes et du coup, on ne peut pas non plus trop augmenter le nombre d'attributaires qui vont se servir de ces bornes, parce que ça peut poser problème au quotidien, en fait, tu vois. Et c'est de la vigne avec des petits grains. C'est une vigne qui est originaire de Turquie. Elle n'est pas jeune, non. Elle a... Ce monsieur-là, monsieur Koch, il est aussi arrivé en 1988 et c'est un des premiers, un des pionniers du jardin. Là, ici, vient de partir monsieur Nautret, 98 ans. Il est trop âgé pour continuer à entretenir sa parcelle. Et voilà, du coup, tu vois, le travail collectif, c'est aussi ça. Tu vois, un départ de personnes très âgées qui ne peut pas effectuer le nettoyage de sa parcelle lui-même, eh ben, ce sont nous, en groupe, en grande partie, et pour aider la ville de Nantes et les factures que ça peut générer si on faisait appel à un prestataire, eh ben, c'est de, voilà, en groupe, essayer de débarrasser au maximum les parcelles des déchets qui ne sont pas du végétal. Pour libérer un petit peu tout ça et voilà. Et là, t'imagines, depuis 1988, ce monsieur, il a été sur cette parcelle et tu vois un petit peu ce que ça peut générer. Et là, on parlait de parcelle libre, tu vois, celle-ci est libre, la numéro 10. Et du coup, celle de monsieur Nautret est libre aussi, mais nous, en groupe, avec les jardiniers, on en a nettoyé deux. Il y a quatre anciens qui sont partis. On a nettoyé les quatre, on en a débarrassé complètement deux parcelles avec la benne, tu vois, que la ville nous a mis à disposition. Et on n'avait pas suffisamment de place pour nettoyer les deux autres, donc la ville va se charger des deux parcelles restantes, du nettoyage des deux parcelles restantes. Et tu vois ce que je te disais, le pont de Cheviré en face, et ce point de vue là, comme ça... Là, tu vois ici, cette parcelle-là se libère. Donc, l'attributaire a à peu près un mois pour débarrasser ses affaires. C'est une parcelle qui va être divisée en deux. Et puis sinon, à cette période, qu'est-ce qui pousse ? Bah, pas grand-chose. On a les plantes aromatiques, comme le persil et la coriandre, hein, qui se maintiennent, qui sont là, qui sont très belles. Ouais, coriandre aussi. Moi, j'ai maintenu de la coriandre, là, tout l'hiver. Et elle est encore là, au jardin, elle est encore belle. Et le persil, c'est incroyable, hein, ça tient bien. La coriandre, en fait, elle préfère qu'on la sème à l'automne. C'est la meilleure période. Elle tient parce qu'elle aime bien le froid, ça la stimule. Ce qu'on ignore en fait, hein, on ne croirait pas. Hein. Et par contre, la coriandre, contrairement au persil, c'est quand on va venir la prélever, quand on va venir la cueillir, elle ne va pas repousser. Tandis que le persil, tu vas venir couper et après, il va repousser. Donc on sème la coriandre bien plus souvent en fait qu'on sème le persil, en réalité. La coriandre a des toutes petites racines, tandis que le persil peut faire des tubercules, tu vois. Enfin, descendre vraiment très profondément en terre. Comme le persil géant d'Italie, par exemple, c'est une variété assez incroyable de persil. Et donc voilà, et donc nous, bah, je te disais tout à l'heure, on est un peu embêtés par toute cette humidité, parce qu'on là, on pourrait mettre nos oignons, on pourrait mettre de l'ail, tu vois, on pourrait commencer ça, mais la terre, c'est trop mouillé. Et ce sont des cultures qui ne supportent pas, en fait, cet excès d'eau. Donc il y a une petite technique, on peut les planter en butte, néanmoins, c'est quand même très mouillé, quoi. La terre est très mouillée. Donc le risque, en fait, c'est que ça pourrisse. Et ça, on ne veut pas trop, parce qu'on aimerait bien qu'ils se multiplient et puis que, tu vois. Ouais, moi, j'ai préparé toutes mes graines au vu des prochains semis. À partir de la mi-février, on va démarrer les premiers semis, notamment les semis des solanacées. Donc tout ce qui est piment, poivron, aubergine, tomate, qui demande 2 mois. On peut les mettre en intérieur dans un premier temps et après les mettre dans les serres pour qu'ils profitent de la chaleur et de la lumière au maximum. Là, on a besoin que les journées se rallongent parce qu'elles ont besoin d'un temps de luminosité. Donc dans un premier temps, le temps que... On peut les laisser à la maison, à la chaleur. C'est souvent une pratique qu'on fait, que je fais. J'ai même une copine là qui produit des plants professionnellement, qui est à Vertou. Et c'est ce qu'elle fait. Enfin, on prépare les caissettes, elle les amène, elle les stocke à la maison, tu vois, à 19-20 degrés pour que ça germe bien comme il faut. Et une fois que ça pointe, on les amène dans les serres. Les serres sont souvent chauffées quand on veut faire du précoce, tu vois, pour la nuit surtout, pour pas que ça descende trop bas. Et les cultures sont protégées avec des voiles, qu'on appelle des pédicètes, enfin, tu vois, qui vont venir ajouter 4-5 degrés de température, tu vois, de les protéger. Et qui laisse passer la lumière. Toujours très très important, la lumière. C'est la raison pour laquelle à la maison on garde pas les plants, parce qu'ils risquent de tiger. Pour chercher la lumière, tu vois, ils montent trop vite et donc ils font une tige qui est trop trop fine et très fragile. Il va y avoir une expo. Tu t'imagines, t'as vu cette longueur d'allée et de grillage d'expo, c'est vraiment ça se prête. C'est extraordinaire. Et puis il y a beaucoup de passages dans ce chemin. Ce qui fait que c'est approprié, en fait. Moi, je pense que le lieu est approprié. En plus, il rejoint deux secteurs de... Ou deux, je ne sais pas comment dire ça. Tu vois, les maisons Castor du Bois de la Muse et les Castors qui vont jusqu'à la Saint-Yves. Et là, il y a vraiment cette jonction-là qui passe par les jardins. Mais je compte aussi demander un éclairage, parce que ce chemin n'est pas éclairé. Il est très très sombre en fait, le soir, la nuit, et je pense qu'il y a certaines personnes qui ont peur d'y passer. Quoi, on peut l'imaginer, tu sais, en énergie solaire, tu vois. Et qui pourrait en plus, tu vois, permettre de voir cette expo, y compris à la nuit tombée. Ce serait extraordinaire.
C'est vrai.
C'était le portrait de Linda, présidente de l'Association des Jardins Familiaux du Bois de la Muse, dans l'émission Brut de Quartier. Merci à Romain pour cette interview. Jet FM est ravi de mettre en valeur les portraits d'habitants de la Croix-Bonneau, une série de podcasts réalisés à l'occasion du projet Mémoire, entrepris par l'Association des habitants du quartier Croix-Bonneau en partenariat avec le CSC des Bourderies, les Templitudes et la maison d'accueil du Bois RC. Idée numérique, Anne-Gaëlle Goduchot et la Lune Rousse. Dans la parole des invisibles, découvrez la voix et les témoignages de ces anciens habitants de la Croix-Bonneau. De ceux qui, pour certains encore, habitent la maison dans laquelle ils sont nés ou qui, enfants, ont connu la carrière barrée, les multiples commerces de la rue de la Convention et les champs de muguet de la Durentière.
Bonjour, oui, je m'appelle Gisèle et j'ai 91 ans. Je suis arrivée dans le quartier en... Je sais plus, merci. 76, non, avant, 69. Ma foi, je me suis bien plu. Pourtant, on me disait, oh, Chantenay, Chantenay. Mais les gens sont très, très sympas. Étaient, je ne sais pas comment ils sont maintenant, hein, parce qu'il y avait plein de commerces. Et ça, c'est dommage.
Alors, votre arrivée sur le quartier, vous disiez que vous étiez arrivée en 1969. Alors, qu'est-ce que vous avez fait sur ce quartier?
Eh bien, on a acheté un commerce. Et puis, ben, ma foi, ça a été dur un peu au départ. Puis après, ça a été bien. On avait des clients très gentils, très sérieux. 2 ou 3 gars qui buvaient un peu trop. Mais enfin, bon, mon mari s'en arrangeait. Et puis, ça n'a pas été déplaisant du tout, du tout.
C'était quoi comme commerce?
Une grainerie qui vend de la paille, du foin. À ce moment-là, les gens avaient des bêtes, il y a tant d'années. des graines pour les oiseaux, des semis, et on vendait du plan parce qu'on avait un grand jardin derrière. Et j'avais un oncle qui venait s'occuper du jardin. Et puis, bon, bah, c'est un petit peu tout ça. Et puis, ça n'a plus lieu d'être. Il n'y en a pas beaucoup maintenant. Hein. Il n'y a plus de grenetier. On s'entendait très bien avec les commerçants. On avait même un commerçant qui était rue de la Convention, tout près de chez nous. Il vendait du vin, il avait un truc. Et on s'est revus là. Et puis c'était bien agréable, ma foi. On a parlé un petit peu de la rue. Que vous dire de plus? Je m'y suis plus, mais j'étais mal logée. Alors ça, j'avais envie un petit peu d'avoir quelque chose de plus confortable. On est parti sur la route de Paris, à un appartement. J'avais un beau-père qui était ambulancier et je l'aidais. Et quand les gens pouvaient marcher, je les conduisais, moi. Voilà, et puis vous savez, j'ai eu mon petit garçon handicapé. Et mes enfants, parce que j'en ai trois, mes enfants, la famille, tout le monde l'a accepté, et puis on l'éveillait. Puis il est très, très gentil.
Vous me disiez qu'elle a beaucoup changé, cette rue, la Convention. Alors justement, est-ce que vous pouvez me raconter ça, la transformation du quartier?
Ben, quand on est arrivé, je vous dis, il y avait des commerces à toutes les portes. Et puis petit à petit, ça s'est vidé. On est parti parce que le commerce baissait partout. Il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien. Et bon, ben nous, on est partis, parce qu'on savait que ça allait pas aller bien fort, quoi. Que dire de plus de la rue de la Convention? Qu'on s'y est plus, c'est sûr qu'il y avait des petits... Mon mari s'est enguirlandé avec un client, parce qu'il était pas content, je sais pourquoi. Mon mari lui a dit, ben va donc ailleurs. Puis le samedi d'après, il est revenu. Et puis il s'est excusé. Et puis j'étais un bon client. Un jour, mon mari voit une dame qui avait un chien, puis il mettait des choses devant la boutique. Et le chien faisait pipi dessus. Une fois, puis tout d'un coup, une autre fois, il dit, mais il va recommencer. Alors, elle est sortie, pourtant j'avais un mari pas méchant. Il lui a dit à la bonne femme, je botte le... À qui? À la maîtresse ou au chien? Ah ben, elle repassait plus devant, hein. Mais c'est quand même pas normal. Alors, elle me disait, tu te rends compte? Mais elle vient tous les matins. Et puis, j'ai dit, oui, maman, il y a des gens. Quand je vois tous les papiers qui se promènent en ville, ça me rend malade. Moi, je jette pas un papier. Ah non, j'ai été appris comme ça. Puis mes petits-enfants, un jour, j'en ai un, il avait pris un papier dégoûtant. Puis il l'avait mis dans la poubelle. J'ai dit, mon petit Théo... t'es bien gentil, mais quand c'est trop sale, vaut mieux pas le prendre quand même. Parce que... Mais je dis, vous mettez dans votre poche, vous pliez. Pas ça, parce que... Dans des rues, quelquefois, je trouve que c'est comme les feuilles. Chacun devrait balayer devant sa maison. Mais c'est pas fait, hein. Et moi, je fais très attention, j'ai peur de glisser quand elles sont mouillées. Et on devrait normalement enlever la neige s'il y en a, le verglas et les feuilles. C'est parfait. Oui, mais c'est triste. Je trouve que... Moi, j'ai vécu comme ça, mais je ramassais tout ce qui traînait. Oui. Ben, c'est pénible, ça. Bon, c'est comme ça. Puis quoi faire? Parce que les gendarmes, maintenant, les flics, ils n'ont plus le droit de rien, presque. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ce qu'ils nous disent. On a des jeunes qu'on ramasse un soir, le lendemain, ils sont dehors. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Faudrait les mettre à travailler sur la rue. Qu'il y en ait des gens costauds qui leur disent, bon, ben, ramassez donc tout ce qui traîne, donnez un coup de pied. Qu'il y a des gamins qui était là à 13, 14, 15 ans, mais je disais, qu'est-ce qu'il fichait là? les parents, non, maintenant, je casse des brouilles. Voilà. Je sais pas ce que ça va donner. Enfin, moi, je verrai pas, mais c'est les enfants, les petits-enfants, quoi. Mais alors, ça picolait, hein, dans le coin. Ça buvait. Voilà. On avait un gars, un homme, un baraque, qui faisait du verre soufflé, qui soufflait le verre. Et il avait dit à mon mari, d'abord, il était adorable, mais quelquefois, et puis il buvait du noix dans ce temps-là. C'est du vin blanc, mais qui va pas trop à la santé, hein, puis qui rend un peu fou. Et il buvait 2-3 bouteilles par jour en soufflant le verre. Et il est pas mort jeune quand même, mais il était costaud. C'est un gars qui mesurait bien 1m85, 100 kilos, mais adorable. Et voilà quoi. Puis... Parce que moi, j'étais toujours à la boutique. C'est mon mari qui livrait, qui rendait service, moi je bougeais pas de là. D'ailleurs, je connaissais pas autour, hein, presque. Et puis ma foi, mais je m'y plaisais bien. Mais je vous dis, j'étais mal logée. Ça me chiffonnait un peu. On avait des petites souris dans les où il y avait. J'ai pas peur. Je m'en fiche. Même un rat, ça me fait pas peur. Alors, voilà, quoi. À ce moment-là, hein, maintenant, c'est une chambre par môme. À ce moment-là, on pouvait en coucher 2, même 3 s'il fallait. Hein, c'était pas comme maintenant. Et puis, on sortait de la cuisine et du commerce et on traversait un petit passage. Et je vous dis, quand on rentrait, il y avait des petites souris, quelquefois. Alors je disais surtout, fermez la porte, qu'ils n'aillent pas dans les chambres. Autrement, j'avais 3 chambres, mais fallait toujours sortir, tout ça. Mais on s'y fait. Puis je vous dis, c'était pas confort comme maintenant. Moi, quand j'étais jeune, j'avais ma petite chambre, mais c'était pas tout le monde. Mes sœurs avaient une chambre pour elles deux. Mais on était bien. Puis avec mon mari, on parlait. Il est parti, malheureusement. C'est ça le plus triste. Le pire, c'est quand mon fils, mon dernier, est né. Mais il y a tellement eu un groupe de gens, d'amis, de familles autour de nous que ça s'est bien passé. Je crois qu'on est accueillants. En plus, on était accueillants. Et puis, après, on a acheté une maison. Rue de la Duchesse, vous connaissez ? Rue de la Duchesse, là, on était bien. On avait un petit terrain, tout. Et puis, ben, quand je me suis retrouvée seule, j'ai dit aux enfants, je vous dis, il y en a une au Sable-d'Olonne et un dans le Morbihan, là-bas. Alors, j'ai dit, ben, faut vendre la maison. Ils m'ont dit, mais oui, maman, puis ils sont gentils. Et oui, donc ils ont eu une part, puisque j'avais 80 ans. Ben, maintenant, c'est obligatoire. Mais je dis, bon, non, c'est pas eux qui l'ont gagnée, cette maison. J'ai dit, bon, ils ont eu des sous. Puis après, je suis allée rue Jean-Ingres, vous connaissez. Là, j'ai loué. Et puis j'ai un de mes petits gars, l'aîné, qui m'a placé l'argent. Donc, je payais mon loyer presque. Et puis voilà, puis j'ai tout lâché, puis je suis là maintenant. Vous savez, ça a été assez simple, hein.
Et vous vous plaisez ici?
Mais c'est pas mal. Et puis les gens sont sympas. Si vous avez vu, ils sont sympas. Mais je m'y plairai jamais d'être... Mais je suis tombée 3 fois. Les enfants m'ont dit oui. Si tu tombes et qu'il n'y a personne dans le coin, tu vas mourir là. Alors bon, ils sont allés voir 3-4 maisons. Puis celle-ci leur a plu, propreté, les gens sont très accueillants, il faut reconnaître, vous êtes au courant. Ben, je suis pas mal là, mais je voudrais partir. Mourir, quoi. Parce que je trouve que ma vie, bon, à mon âge, on n'est pas pareil qu'il y a 15 ans. Hein. Non, faut pas avoir un gros truc pour. Mais ils savent, mes enfants. Ils m'ont dit, maman, on fera rien pour te prolonger si ça va pas. Je suis d'accord. Je regrette tout ça. Pas tout ça, parce que. Mais enfin, j'y pense. J'y pense. Ça m'a fait tout revoir.
Alors, vous disiez, Gisèle, que vous trouviez que le quartier a beaucoup changé par rapport à votre. Au temps où vous y habitiez.
Oui. Oui. Ben oui. Parce que je suis passée ben, en voiture la première fois. J'ai dit à un de mes petits gars, passe rue de la Convention. Que je vois un petit peu. Bon, elle me dit, tu sais, grand-mère, il n'y a plus rien. Ils habitent sur Trente-Mous, alors. Ouais. Puis je connais plus rien maintenant. Pensez que ça fait pas loin de 60 ans que j'étais là-bas. Ça a beaucoup changé. Plus de commerce. Il y avait 3-4 boulangeries. 3 charcuteries, boucheries. Des fleurs. Je dois vous dire qu'il y avait tout. On se connaissait tous, on se parlait d'ailleurs avec monsieur, je ne sais plus son nom. Quand on faisait quelque chose, mon mari et lui, eh bien, ils faisaient des échanges. Quand il y avait des gamins, ils lui donnaient un ticket, ils venaient chercher un poisson rouge chez nous. Et puis, il faisait des prix, et puis on s'entendait bien. Je pensais le trouver là, d'ailleurs. Mais je pensais qu'il serait là. Parce que lui, il a été longtemps là-bas aussi. Oui, ben, vous savez, c'est déjà loin, tout ça. Hein. Oui, le quartier a bien changé, mais tout Nantes a changé. Il y avait des rues vers Saint-Clément et tout ça. Il y avait pareil, parce qu'on avait des amis aussi par là. C'était pareil, il y avait commerce. Maintenant, je ne sais pas combien il y en a, peut-être 10. Il n'y a plus de commerce, de petits commerces, j'entends. C'est les grandes surfaces qui ont tout pris, quoi. C'est dommage parce que c'était plus sympa d'être, de connaître tout le monde. Et puis, bah oui, c'est comme ça la vie. Hein.
On parlait de Nantes. Et est-ce que vous êtes nantaise ?
Oui, mais j'ai habité un petit peu autour, hein, un peu avec mes parents. Ben, je suis nantaise, je suis née à Nantes, rue de la Tour d'Auvergne, près de la place La République, si vous connaissez. Et qu'est-ce qu'on a fait après j'ai perdu ma maman, qui était toute jeune, et mon papa. J'avais des cousins qui n'avaient pas d'enfants. Il dit, si t'es embêté avec Gisèle, si tu veux qu'on te la prenne. Il dit, mais je vais élever ma fille. Mon papa était dynamique, tout ça. Il venait me chercher tous les dimanches matin. Il me ramenait le soir. Ce n'était pas comme maintenant. Hein. On faisait comme on voulait. Puis au bout d'un moment, il a dit, oh, ça va pas. Je reprends ma fille, faites son baluchon. Et puis après, j'étais sur des gens. Aux Sorinières, vous connaissez ? Avec 2 grandes filles, ça a été le bonheur. Ouais, c'était des amis. Parce que j'avais une belle-mère, mais qui était adorable. Et ils ont cherché après, et puis ils ont trouvé quelqu'un sur les Sorinières, et qui était adorable. Oui, ma nounou, et puis le couple, ils avaient une petite ferme, et 2 grandes filles, et j'étais dorlotée. Sauf papa disait quelquefois, mais mettez-lui donc des gants, elle va avoir des engelures. Je ne savais pas ce que c'était, les gants, presque, vous savez. Les paysans, il faut reconnaître qu'il y a 75 ans, peut-être. Ouais, et puis mon papa. Voilà, ben, je n'ai pas été malheureuse avec ma belle-mère non plus. Et j'avais même une grande famille à ce moment-là, parce que. De mon côté, plus du côté de ma belle-mère. Mais c'était ma mère, hein. Je ne l'ai jamais appelée, c'était toujours maman. J'ai eu cette chance-là. Ben après, j'ai commencé, et ben, mon papa est décédé. J'avais quoi, 17 ans, 18 ans, je n'ai pas continué l'école, parce que maman, dans le commerce, j'aidais. Et puis j'ai travaillé, voilà, vendeuse, pareil. Ah oui, vendeuse. C'était de la vente, quoi, que ce soit tissu ou n'importe. Puis moi, j'ai pas travaillé beaucoup avec mes parents parce que je suis partie. Et puis, ben, ma maman a vendu le commerce. Enfin, bon, voilà. Et elle est venue habiter Nantes. Et voilà, ben, vous savez, ma vie a été assez simple quand même. Difficile peut-être parce que ben, quand on perd sa mère après, son père... Et... J'ai, ben ma foi, j'ai perdu ma maman, j'avais quoi, 2 ans et demi à peu près. Et ben ma foi, papa s'est toujours occupé de moi. Et après, ben mon papa, j'avais 17 ans. Voilà. Puis après, moi j'ai trouvé mon mari qui a 22 ans. Bon, mais je peux dire que j'ai été heureuse. Ça ferait 67 ans, on est mariés, moins 10, 57 à peu près. J'ai une fille qui est en retraite, 65 ans, 66 ans bientôt. Un gars qui a presque 60, et puis mon petit handicapé qu'on a fêté ses 50 ans l'année dernière. Il ne faut pas se plaindre. Je vois ma fille. Ben, assez régulièrement, parce qu'elle s'occupe de mes papiers maintenant. J'ai les papiers, hein, vous savez ce que c'est. Et puis mon fils aussi, mais il est loin, lui, à côté de Jocelyn. S'ils sont venus il y a 15 jours, j'ai perdu, on a un voisin de la rue de la Duchesse, un voisin qui est décédé. Puis c'était plutôt des amis. Alors, on est allés tous les trois. La famille, on se voit tous. J'ai des amis, on se voit avec plaisir. Moi, j'entends des gens qui me disent que ici, oh, ils ne voient pas beaucoup la famille. Moi, des amis, samedi, j'ai une amie qui est venue. C'est rare que j'ai une semaine sans personne, quoi.
Vous êtes contente dans l'ensemble, alors?
Oui, mais enfin, je peux coucher personne. Faudrait que vous veniez voir ma pièce. Mon lieu pas fait, par exemple. Parce que j'ai un peu aéré.
Elles sont comment, les chambres, ici?
Oui, les chambres sont pas régulières. C'est très bien, d'ailleurs. Moi, je trouve ça très bien, parce que moi, j'en ai une grande. Et puis, je voulais pas prendre 2 pièces, parce que je voulais garder de l'argent pour moi, quand même. J'ai fait mon lit là, petite séparation. Vous venez voir si vous avez 5 minutes. Et puis, ben, quand je suis là, je suis bien. Parce que hier, j'ai beaucoup marché. Je suis allée rue Jean Ingres. Et mon amie Marie n'était pas là. Après, je suis allée voir une autre amie. Et après, je suis allée à Carrefour. Et je suis revenue avec un peu de marchandises. Voilà, quoi. Puis Noël approche. On commence à faire un petit peu de projet. Alors, on fait Noël chez ma fille au Sable d'Olonne, avec la famille. Et puis, premier de l'an, on est 3. On va essayer de bien manger. Puis, on va chez une amie qui peut coucher. Moi, je ne peux pas coucher grand monde. Alors que dans la maison, je pouvais en coucher 6, dans l'appartement. Maintenant, je ne peux pas. Alors, on est chez une qui a plus grand que moi. Et on va coucher ensemble. Et on va picoler un petit peu, sans abus. Mais la semaine, je suis toute seule, je bois pas. Et là, on amène chacun notre bouteille. Mais quelquefois, on les boit pas, mais champagne pour l'apéro. Ça dépend ce qu'on mange, un peu de blanc peut-être. Et puis après, du rouge. Puis un bon dessert. Non, on va pas se priver. On fait ça depuis combien d'années? Pas, peut-être 10 ans. C'est moi souvent qui préparais le plus. Et là, j'ai dit, les filles, j'ai pas envie. Alors, on va prendre chez un bonbon boucher, là. Comment que ça s'appelle, bon sang? Ben, on pourrait être du parc de procès. Et on va lui prendre des trucs juste à réchauffer. Puis des huiles, je les ouvrais, mais là, je sais pas. Enfin, si chacun... Il n'y a que moi qui peux ouvrir. Puis je dirais que, sincèrement, c'est moi qui programme beaucoup de choses. Alors, je leur ai dit, les filles, il faut peut-être vous y mettre. Alors, je ne sais pas. Oh oui, on va y arriver. Puis on va bien manger. C'est agréable de se retrouver. Avant, on était 5, mais il y en a qui sont partis aussi pour le grand voyage.
C'était le témoignage de Gisèle, la parole des invisibles, réalisée par l'association des habitants du quartier Croix-Bonneau dans l'émission Bruit de quartier. À écouter sur la cartographie sonore de Bellevue par Jet FM ou sur Nantes Patrimonia.
Jet FM. 91.2.